Nous arrivons à la fin du livre des juges. Avec le chapitre 19, on avance encore plus dans l'horreur. L'histoire passe maintenant de l'apostasie spirituelle à la décadence morale totale. Je lis ce chapitre en le résumant. À cette époque, où il n'y avait pas de roi en Israël, un Lévite qui résidait dans l'arrière-pays de la région montagneuse d'Éphraïm prit pour épouse de second rang une femme de Bethléem en Juda. Mais celle-ci se livra à la prostitution et le quitta pour retourner chez son père. Son mari alla la trouver pour lui parler et la persuader de revenir chez lui. Ils partirent et arrivèrent près de Gibéa, une ville de la tribu de Benjamin, quand le soleil se couchait. Le Lévite entra dans la ville et s'arrêta sur la place, mais personne ne leur offrit l'hospitalité pour la nuit dans sa maison. Finalement, un vieillard rentra tard dans la soirée de son travail des champs. Il dit alors, « La paix soit avec toi. Sois le bienvenu. Laisse-moi pourvoir à tous tes besoins, tu ne vas pas passer la nuit sur la place. » Pendant qu'il se donnait du bon temps, les hommes de la ville, une bande de vauriens, encercla la maison. Ils frappaient violemment à la porte et criaient au vieillard, propriétaire de la maison. « Fais sortir l'homme que tu as reçu chez toi pour que nous en jouissions. » Le maître de la maison sortit vers eux et leur dit, « Non, mes amis, ne commettez pas de mal, je vous prie, puisque cet homme est l'hôte de ma maison, écoutez. » « J'ai une fille qui est encore vierge. L'homme a une épouse de second rang avec lui. Je vous les amènerai, vous pourrez en disposer et les traiter comme vous jugerez bon. Mais ne commettez pas une action si infâme envers cet homme. » Alors le Lévite prit son épouse et la fit sortir vers eux. Ils la violèrent et abusèrent d'elle toute la nuit jusqu'au matin. Le matin venu, son mari se leva, ouvrit la porte de la maison et sortit pour continuer son voyage, quand il vit cette femme affalée à l'entrée de la maison. Il lui dit, « Lève-toi et partons. » Mais il n'y eut pas de réponse. Alors le mari la chargea sur l'un de ses ânes et se remit en route pour rentrer chez lui. Arrivé dans sa maison, il saisit un coutelas, prit le corps de la femme et le découpa membre par membre en 12 morceaux qu'il envoya dans tout le territoire d'Israël. À tous ceux qui voyaient cela, les émissaires demandaient, « A-t-on jamais vu un crime aussi horrible depuis que les Israélites sont sortis d'Égypte ? Réfléchissez, consultez-vous et prenez une décision. Les Benjamites sont aussi dégénérés que les Cananéens. » Déjà, ils ont failli au devoir sacré de l'hospitalité. Ça encore, passons. Mais le pire, c'est que l'homosexualité était devenue rampante. Le scénario a des relents de ce qui s'est passé à Sodome qui fut détruite à cause de cette pratique. Le caractère sordide de l'épisode est accru par le fait que deux hommes sont prêts à livrer cyniquement deux femmes au pire supplice pour sauver leur honneur. Ça se passe de commentaires. L'envoi du corps dépecé est destiné à réveiller Israël de sa léthargie morale. Cette ignoble histoire se poursuit dans le chapitre suivant avec l'anarchie politique et beaucoup de sang versé. Je résume la suite. Les chefs de tout le peuple, de toutes les tribus d'Israël, prirent part à cette assemblée du peuple de Dieu composée de 400 milliers de fantassins portant l'épée. Tous les hommes d'Israël se rassemblèrent pour marcher contre la ville unie comme un seul homme. Les différentes tribus envoyèrent d'abord des messagers dans toute la tribu de Benjamin pour leur dire « Comment un crime aussi horrible a-t-il pu être commis chez vous ? Maintenant, livrez-nous sans tarder ces vauriens qui sont à Gibéa pour que nous les exécutions et que nous fassions disparaître le mal du milieu d'Israël. » Mais les Benjaminites ne voulurent pas écouter leurs compatriotes israélites. Au contraire, ils quittèrent leur ville et se rassemblèrent à Gibéa pour partir en guerre contre les Israélites. Versets 2 à 14. Benjamin était une tribu guerrière qui comptait non seulement des archers, mais aussi des frondeurs entraînés qui pouvaient projeter une pierre d'un demi-kilo à la vitesse de 150 km/h et avec la précision d'une arme à feu. La guerre civile éclate. Tout d'abord, les 11 tribus subissent 2 défaites et perdent 40 000 hommes. L'Éternel voulait par là les conduire à une sincère repentance, car ils ne valaient pas mieux que leurs frères coupables. C'est ce qui se passe, car le second échec produit une réaction plus intense que le premier. Aux larmes s'ajoute le jeûne en signe d'humiliation. Finalement, la totalité de l'armée de Benjamin est exterminée, à l'exception de 600 hommes qui s'étaient réfugiés dans une forteresse du désert. C'est tout ce qu'il restait de cette tribu, car les Israélites leur infligèrent le traitement prévu pour les Cananéens dont ils avaient adopté les mœurs. Toutes les villes de Benjamin furent détruites et les populations massacrées. Décidément, il n'y allait pas de main morte à cette époque. Le chapitre 21, le dernier de ce livre, continue encore cette sordide histoire. Je lis des extraits. Les Israélites furent pris de pitié pour les Benjaminites, leurs frères. Ils disaient « Aujourd'hui, une tribu a été retranchée d'Israël. Que ferons-nous pour que les survivants d'entre eux aient des femmes? Car nous avons juré par l'Éternel de ne pas leur donner nos filles en mariage. » Versets 6 et 7. Israël est maintenant confronté à un nouveau problème dû à leur serment irréfléchi de ne pas donner leur fille aux Benjaminites. Alors, comment faire pour que survive la tribu quasi anéantie? Avant de partir en guerre, ils avaient fait un autre vœu, déclarant que quiconque refuserait de se joindre au combat serait puni de mort. Or, aucun homme de Yabesh, une ville à l'est du Jourdain, ne s'était joint à la guerre. Ils envoient donc 12 000 hommes pour exterminer la population et en ramener les jeunes filles. Je continue le texte plus loin en compressant. Toute l'assemblée envoya des messagers auprès des Benjaminites pour faire la paix avec eux. Ceux-ci retournèrent aussitôt chez eux. On leur donna les filles qui avaient été épargnées à Yabesh en Galaad, mais il ne s'en trouva pas assez pour eux tous. Versets 13 et 14. Il manque en effet 200 jeunes filles. Je résume la suite jusqu'à la fin du chapitre. Ils dirent alors qu'on allait bientôt célébrer, comme chaque année, la fête de l'Éternel à Silo. Alors, ils ordonnèrent aux Benjaminites, « Allez vous mettre en embuscade dans les vignes. Lorsque vous verrez les filles de Silo sortir de la ville pour danser leur ronde, vous surgirez des vignes, chacun de vous enlèvera une fille » et l'emmènera dans le pays de Benjamin pour en faire sa femme. Si leur père ou leur frère viennent se plaindre à nous, nous leur répondrons « Soyez compréhensifs envers eux, puisque nous n'avons pas pris une femme pour chacun d'eux lors de l'expédition de Yabesh. D'ailleurs, vous n'êtes pas coupables de parjure, puisque ce n'est pas vous qui les leur avez donnés. » Les Benjaminites suivirent ce conseil. Ils prirent le nombre de femmes voulues parmi les jeunes filles qui dansaient. Ils les enlevèrent et partirent avec elles dans leur territoire. Ils rebâtirent leur ville et s'y établirent. Les autres Israélites quittèrent ces lieux pour regagner leur tribu et leur famille. De là, chacun rentra dans son territoire. Fin du passage. L'idée est alors d'enlever de force des jeunes filles parmi celles qui viendront danser lors d'une fête en l'honneur de l'Éternel. Tout ça parce qu'il n'y en avait pas assez pour les autres Benjaminites. Ainsi, les pères de ces jeunes filles enlevées ne seront pas coupables d'avoir rompu leur serment de ne pas donner leurs filles en mariage à ces Benjaminites. Ceux-ci, qui n'ont de toute façon guère le choix, suivirent le conseil. C'était vraiment l'anarchie complète, comme le souligne encore une fois la dernière phrase du livre que je lis. En ces temps-là, il n'y avait pas de roi en Israël. Chacun faisait ce qu'il jugeait bon. Le livre des Juges a décrit l'état dégénéré du peuple d'Israël qui, presque littéralement, est descendu aux enfers pour finalement sombrer dans l'horreur. Ce fut une des périodes les plus troubles de l'histoire d'Israël, durant laquelle les histoires sordides se succèdent. Le peuple de Dieu qui avait été délivré de l'esclave égyptien et qui s'était installé en Palestine commença à servir l'Éternel bon an, mal an. Mais dès la mort de Josué, l'aide de camp de Moïse et le dernier dirigeant en titre de la nation, ce fut aussitôt la décadence spirituelle et morale qui conduisit à l'anarchie sociale et politique. Dieu, dans sa miséricorde, ne permit pas que la nation disparaisse et délivra son peuple de ses ennemis maintes et maintes fois par l'intermédiaire des chefs juges. Après avoir lu le livre des juges, le lecteur est comme un vagabond perdu dans le désert et mourant de soif. C'est alors qu'on lui tend un grand verre d'eau bien fraîche. C'est le livre de Ruth, une lumière qui luit dans les ténèbres. Il raconte une histoire toute simple, mais savoureuse. Cet ouvrage tire son nom de sa principale héroïne. Il est bien construit, écrit avec beaucoup de soin et parsemé de diverses figures de style et de jeux de mots. Perle d'une grande beauté, ce récit se déroule sur la toile de fond noir encre de l'époque des juges. L'histoire de Ruth montre que, localement, le tableau n'était pas toujours aussi noir qu'il apparaît dans le livre des juges. L'atmosphère qui règne à Bethléem où se déroule l'histoire est paisible, bucolique et besogneuse. Les principaux personnages manifestent solidarité, bienveillance et une piété toute simple. Tout au début du livre des juges, on apprend que les Moabites, un peuple voisin, ont assujetti les Israélites pendant 18 ans, suite à quoi ces derniers, conduits par le chef juge Éode, infligèrent une sévère défaite à leurs oppresseurs qui ne les ont plus inquiétés pendant une très longue période de temps. C'est durant cette accalmie qu'une famille israélite est allée s'installer en Moab et qu'il y a eu des mariages entre les deux peuples. La tradition attribue ce livre, comme celui des juges, à Samuel, un des principaux personnages de l'Ancien Testament. Il les aurait écrits sous la monarchie de David. La structure du livre est finement travaillée et se compose de 4 tableaux. Dans l'introduction, nous faisons connaissance avec Noémie, la belle-mère israélite de Ruth, qui se trouve dans une situation désespérée. Mais dans la conclusion du livre, on la découvre bénie, heureuse et pleine d'espérance. On passe de ces deux situations diamétralement opposées grâce aux événements rapportés dans les 4 tableaux dont Ruth et Booz, un parent proche de Noémie, sont les personnages principaux. Ce qui frappe avant tout dans cette histoire est le comportement de solidarité généreuse et de dévouement de Ruth, une étrangère, envers sa belle-mère israélite. Cette attitude rencontre à son tour la bienveillance d'autrui, en particulier celle de Booz, et Ruth obtient la bénédiction divine pour elle-même et sa belle-mère. Ainsi, comme cela s'est déjà produit pour Rahab, la prostituée cananéenne de Jéricho, une femme étrangère est accueillie dans le peuple de Dieu et participe aux bénédictions promises aux Israélites qui se montrent fidèles à l'Éternel. Et cela arrive de surcroît à une époque où Israël, dans sa majeure partie, a rejeté son Dieu. L'auteur s'est attaché à nous présenter, sans trop insister, la piété toute simple des personnages qui font cette histoire, grâce à de petites touches ici et là. Tout d'abord, Ruth va adopter l'Éternel comme son Dieu. Ensuite, transparaît la piété des personnages de Noémie, Booz, mais aussi de ses serviteurs, ainsi que des responsables et des femmes du village de Bethléem. On les voit vivre leur espérance en l'Éternel au fil de leur quotidien, de leur langage, de leur attitude bienveillante ou dans leur désir de faire les choses selon la loi de Moïse. On est en face de gens ordinaires qui vivent une vie banale, mais avec une dévotion sincère au Dieu d'Israël. Par leur vie droite, les personnages du livre de Ruth établissent un contraste saisissant avec ceux du livre des Juges, dont le thème est « Chacun faisait ce qu'il jugeait bon ». Même les chefs juges, qui furent des hommes de foi, avaient une moralité déficiente. Ils étaient motivés par leurs vices, la soif de posséder, le désir d'atteindre un haut statut social et de jouir des plaisirs de la vie auxquels leur position leur donnait accès. L'intérêt pour les femmes du juge Samson est l'archétype d'un héros qui était invincible et d'une force herculéenne, mais dont le caractère moral était dégénéré, ce qui l'a conduit à s'autodétruire. Le livre de Ruth s'articule autour de la loi du Lévirat, le thème central du livre. Il s'agit des devoirs spécifiques du proche parent masculin envers une veuve. Cette histoire donne un puissant enseignement sur la valeur des lois divines dans le domaine social, puisque c'est grâce à elles que le livre a un dénouement heureux. Une autre loi, celle du droit de glaner, révèle aussi sa pertinence. Au passage, ce récit nous donne des renseignements intéressants sur les coutumes israélites à une époque très ancienne. Au fil des circonstances, l'Éternel se révèle discrètement, mais de façon bien marquée, comme le Dieu de la Providence qui agit en utilisant les événements de la vie. Noémie, la belle-mère de Ruth, le fait remarquer dès que la chape du désespoir est levée et qu'elle se sent sous des auspices favorables. L'auteur montre clairement que Dieu agit au travers de Booz, celui qui a le droit de rachat selon la loi du Lévirat. Il est un instrument entre les mains de l'Éternel pour secourir et protéger Ruth et Noémie. Ce livre encourage ceux qui se trouvent en situation de détresse à placer leur confiance en l'Éternel. Il s'occupe en effet des plus humbles et dirige la vie de ses fidèles, même si son action n'est pas immédiatement perceptible. Comme ces événements ont été écrits à une époque de profonde apostasie de la part d'Israël, le livre de Ruth enseigne qu'il est possible de vivre par la foi en l'Éternel au sein d'une nation corrompue par l'idolâtrie et des mœurs dissolues. Dieu accorde sa bénédiction à ses fidèles, quelle que soit l'époque à laquelle ils vivent. Ruth est issue du peuple moabite qui éventuellement disparaîtra sans laisser de traces. Elle est cependant mentionnée par l'évangile de Matthieu, dans la généalogie de Jésus, aux côtés d'autres femmes qui étaient a priori peu recommandables et condamnées à l'oubli, comme par exemple Rahab, la prostituée cananéenne. Pourtant, dans la souveraineté divine, ces personnes devinrent les ancêtres du Messie. La plus grande partie de l'histoire de Ruth se déroule à 9 kilomètres au sud de Jérusalem, à Bethléem, mot qui signifie « la maison du pain ». Mais comme elle était vide, une famille de 4 personnes décide d'émigrer. Ils parcourent quelques 80 kilomètres pour se rendre dans le pays de Moab, qui est un plateau fertile situé à l'est de la mer Morte. À cette époque, les 12 tribus d'Israël étaient gouvernées, plutôt mal que bien, par les chefs juges. Il y en eut 12 en tout, dont Déborah, une femme de très grande valeur, soit dit en passant. Cette période particulièrement troublée fut marquée par l'infidélité persistante du peuple choisi à l'alliance de l'Éternel. Israël, en tant que nation, était caractérisé à la fois par son attrait pour les faux dieux cananéens, le chaos politique et par l'oppression exercée contre lui par ses ennemis. En ce temps-là, la famine était un fléau cyclique qui obligeait certains, les plus pauvres, à émigrer dans des pays voisins non touchés. C'est ainsi que Abraham et plus tard son petit-fils Jacob allèrent en Égypte. En Israël, la famine était toujours un signe du jugement divin pour punir le peuple rebelle, et c'est sur cette toile de fond que commence l'histoire charmante du livre de Ruth. Peut-être que je n'ai pas à me soucier de mon pain quotidien. Cependant, il est une autre nourriture qui est tout aussi importante, voire même davantage. Lorsque Jésus fut tenté par le diable, il lui a dit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Fin de citation. Le pain confectionné avec de la farine me permet de vivre ici-bas. Mais c'est le pain descendu du ciel, Jésus-Christ, et sa parole qui donne la vie éternelle.